Vous écoutez On lit pour vous.
Mon parcours professionnel sans limite, un texte de Véronique Pagé, directrice service aux membres et aux interventions psychosociales à Viomax, dans l'édition Hiver 2025, numéro 165, de la revue Paraquad. Chers lecteurs et lectrices du Paraquad, c'est avec plaisir que je partage avec vous mon parcours en lien avec l'emploi et l'engagement. J'avoue que c'est un privilège pour moi, car l'employabilité des personnes en situation de handicap m'a toujours tenue profondément à cœur. Étant moi-même une personne vivant avec une limitation depuis ma naissance, j'ai dû avoir des réflexions importantes au cours de mon parcours qui m'ont permis de définir mes forces, mes limites et mes défis relativement à l'emploi. Je sais que ce n'est pas nécessairement ce qui saute aux yeux quand on me voit et quand on découvre que j'occupe un poste de direction depuis déjà plusieurs années. Je peux vous confirmer que j'ai dû dépasser mes limites et changer les mentalités plus d'une fois pour tracer mon chemin. Mais avant de vous parler de mon parcours professionnel, permettez-moi de partager avec vous mes réflexions du moment. Aujourd'hui, je savais que j'allais vous écrire, mais je ne savais pas encore ce que j'allais partager avec vous. J'ai été inspirée lors de mon rendez-vous médical qui m'a un peu bouleversée. Je devais aller à l'hôpital Sainte-Justine pour un suivi et je n'avais pas nécessairement le goût d'y être. Lorsque je suis entrée, j'ai été totalement surprise par une foule d'émotions qui sont montées en moi. Je prenais conscience tout à coup des heures que j'ai passées entre ces murs, de ma naissance jusqu'à l'âge adulte. Les traitements de physiothérapie, les consultations en orthopédie, la maternelle, les hospitalisations pour mes opérations, sans compter que c'est l'endroit où j'ai donné naissance à mon fils. Dans ces murs, j'ai vécu des grandes peines, de la peur, de la colère, mais aussi mes plus grandes joies. J'ai croisé des enfants qui ont des défis importants à relever pour leur santé, mais ils étaient souriants. Ils m'ont rappelé à quel point cet endroit devient un peu ta maison pour un certain temps et que tu arrives à y trouver un certain confort, car cette vie devient la tienne malgré les moments d'inconfort. Tout au long de ma visite, j'ai eu plusieurs petits rappels qui m'ont tous ramené à mon enfance et à mon parcours. Je me suis rappelé que chacune des opérations représentait un défi pour réapprendre à marcher, mais aussi au niveau académique pour toutes les journées d'école manquées. Je décris souvent ces étapes de ma vie comme mon parcours olympique parce que chaque étape me servait à gagner plus d'autonomie. Quand je parle d'autonomie, je parle de l'autonomie avec un grand A, celle qui me permettait de passer du fauteuil roulant à la marchette et ensuite aux béquilles canadiennes d'avant-bras, mais aussi celle qui me permettait de faire des projets de vie, de voir mon futur apparaître. À travers ces défis, je souhaitais toujours repousser mes limites et mon autonomie représentait ma médaille olympique qui allait me permettre un jour de gagner ma vie, d'obtenir un emploi et de pouvoir rêver d'avoir un jour une famille. Je vais vous épargner tous les détails de ma vie, mais disons qu'après plusieurs opérations et reprises des retards scolaires, je suis arrivée au milieu de mon secondaire avec l'envie de me connaître et de comprendre qui je suis. J'avais l'impression d'avoir fait 3 bacs et d'avoir consacré ma vie aux études et aux traitements médicaux. J'ai dû à ce moment prendre une pause et laisser l'école, car je sombrais tranquillement dans un état de fatigue très grande, en recherche de sens et pour comprendre ce que j'allais faire de ma vie. Cette pause m'a permis de découvrir mes passions. J'ai fait du théâtre, de la figuration, de la photo, mais surtout beaucoup de bénévolat. Je me suis impliquée dans des causes qui me touchaient et c'est grâce à ces expériences humaines que j'ai compris que j'avais besoin d'aider les gens qui vivent des défis d'adaptation et de faire de la relation d'aide. Je suis retournée finir mon secondaire aux adultes et j'ai choisi de m'inscrire à la technique en éducation spécialisée au Cégep. Je travaillais encore beaucoup car j'étudiais à temps plein tout en m'impliquant à la Société canadienne du cancer. Ayant accompagné quelques proches en fin de vie, je me suis sentie appelée par cette cause qui me tient à cœur. J'ai donc fait pendant mes études du soutien aux proches aidants. Mes résultats scolaires et mon engagement communautaire m'ont permis d'être choisie pour recevoir la bourse du millénaire et cette aide m'a permis de finir mes études tout en poursuivant mes implications dans différentes causes. un projet d'été qui devient une carrière. Dès la fin de mes études, je suis appelée pour un projet d'une durée de 2 mois pour le centre Viomax. J'étais ravie de cette opportunité, car la clientèle qui vit avec des limitations physiques en post-réadaptation est celle qui m'intéressait le plus, car je sentais que je pouvais vraiment contribuer. Je me suis découvert, durant ce projet d'été, un talent pour non seulement accompagner la clientèle, mais aussi pour accompagner l'équipe d'intervention vers un meilleur savoir-être et pour transmettre mon expertise. J'avais trouvé exactement ce que je souhaitais faire pour la suite de mon parcours professionnel, c'est-à-dire travailler en intervention et coordonner une équipe. En fin d'été, j'ai commencé à travailler à titre de coordonnatrice clinique pour une ressource intermédiaire et j'ai gardé quelques heures à Viomax. J'ai occupé ces 2 postes en parallèle durant 6 ans, jusqu'à ce que la directrice en poste à Viomax quitte pour un congé de maternité et qu'on m'offre le poste de directrice générale par intérim. J'ai accepté avec honneur et gratitude de relever ce beau défi. Ce qui devait être encore temporaire est devenu ma carrière et j'y suis depuis bientôt 18 ans. Durant toutes ces années, j'ai pu, à mon humble avis, permettre à des gens avec ou sans limitation d'être heureux au travail. Ce poste m'a permis, entre autres, d'embaucher des gens qui ont eux aussi des limitations et de travailler de près avec l'équipe d'employabilité de Mémo Québec. J'ai eu la chance d'accompagner des gens extraordinaires et de leur permettre de découvrir leurs forces et leurs talents. Je leur ai permis de dépasser leurs limites tout en les respectant, mais surtout, le plus important pour moi, c'est de voir d'autres personnes adopter de nouvelles perceptions de leurs limitations et entrevoir l'avenir plus positivement. Finalement, je me dis que ma visite à l'hôpital Sainte-Justine m'aura permis de partager avec vous mon parcours, mais aussi de le trouver beau et grand et surtout pas limitant. C'était « Mon parcours professionnel sans limite », un texte de Véronique Pagé, paru dans l'édition Hiver 2025, numéro 165, de la revue Paraquad.
Briser le cycle de la violence genrée, un texte de Gwendoline Le Bomain, publié le 20 novembre 2025 dans l'Aurore boréale. Au Canada, une femme sur 4 subira une expérience de violence physique ou sexualisée au cours de sa vie. Au Yukon, ce taux sera 3 à 4 fois plus élevé selon les données du site End Violence Yukon. Cette violence s'intensifie lorsque l'on cumule certaines caractéristiques comme le handicap, l'orientation sexuelle ou l'origine ethnique. Par exemple, le taux d'homicide chez les femmes et les filles autochtones est près de 7 fois plus élevé que chez celles qui ne le sont pas. La violence genrée se manifeste sous diverses formes, telles que physique, sexuelle, psychologique ou économique. On la retrouve partout. Dans la rue, au travail, sur les réseaux sociaux et au sein même du foyer. Au Canada, plus de 11 millions de personnes ont été victimes de violences de la part de son partenaire, un type de violence fondée sur le sexe, au moins une fois depuis l'âge de 15 ans. Une violence qui traverse les siècles et se retrouve dès les textes mythologiques antiques, gréco-romains et bibliques, où la femme est souvent présentée comme maléfique. À la barre des accusés, les harpies et les furies, Pandore, les déesses ou encore les Amazones et bien sûr Ève, personnage transgressif et représenté comme tentatrice. Mentionnons également la chasse aux sorcières qui a sévi en Europe entre le 15 et le 18e siècle, notamment lors des procès de Salem aux États-Unis et qui subsistent encore en Afrique comme au Sénégal, où les veuves sont régulièrement ostracisées. En somme, les exemples sont trop nombreux pour être tous cités. Mis en perspective, ces faits évoquent le mythe de Sisyphe, condamné par les dieux à pousser éternellement sa pierre jusqu'au sommet d'une montagne. Pourquoi tant de violence? Cette violence perdure aujourd'hui pour de multiples raisons. Elle s'enracine dans des structures de pouvoirs anciennes et des normes sociales encore vivantes, soutenues par des systèmes qui peinent à protéger les victimes et à responsabiliser les agresseurs. Face à la normalisation de la violence, il est essentiel de la nommer. Par exemple, l'expression « culture du viol » a été remise en avant par le mouvement international « MeToo ». Elle désigne les comportements qui banalisent, excusent ou justifient les agressions sexuelles ou qui les transforment en plaisanterie et en divertissement. Il est également crucial de parler et de diffuser le concept de consentement. Le mois dernier, la France a intégré la notion de consentement à la définition du viol dans le Code pénal, rejoignant ainsi des pays comme le Canada, ayant déjà réformé leur législation en ce sens. Alors, que faire? Comment ne pas ressentir de la colère face à ces injustices, de l'indignation ou de la lassitude, et vouloir dire « OK, c'est assez ». Militer, batailler, encore et encore. On se rebelle, on ne se laisse pas faire et on le dénonce. De nombreux mouvements existent à travers le monde, comme le fameux mouvement MeToo ou le mouvement 4B en Corée du Sud, pour dire quatre fois non aux hommes, non aux rencontres amoureuses, non au sexe, non au mariage et non à élever des enfants. Se rassembler, parler de ses expériences, les partager, se retrouver peut-être dans les paroles des autres, appréhender son corps, se rappeler qu'il nous appartient et que nous en sommes aussi responsables. L'aimer aussi. Le 15 novembre dernier, plus d'un millier de personnes, des hommes, des femmes, des plus jeunes et des plus âgés, se sont réunis sur le sentier Millennium pour exprimer leur soutien aux deux femmes agressées cet automne à Whitehorse. Cet événement illustre la solidarité et prouve qu'à plusieurs, on est plus fort, plus forte. Faire des choix, décider de rejoindre un groupe féministe ou un mouvement, adopter son propre style de vie, même lorsque se libérer des pressions sociales et des comportements inculqués depuis l'enfance n'est pas toujours facile. Choisir le calme aussi, la paix intérieure face à ces violences. Calmer toutes ces voix, ces opinions balancées en rafale à ces sirènes. S'opposer au chaos. Le calme face à l'agitation, à la clameur permanente. Le calme comme une forme de résistance. Finalement, mettre fin à la violence genrée demande du temps et nécessite l'engagement de toutes et de tous au sein de la société. C'était « Briser le cycle de la violence genrée », un texte de Gwendoline Le Beaumain, publié le 20 novembre 2025 dans l'Aurore boréale.
La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Un texte de la rédaction paru dans le numéro 166 au printemps 2025 du magazine Paraquad. Cette fondation a choisi de s'impliquer il y a 12 ans auprès des personnes proches aidantes. À l'époque, la proche aidance était une cause naissante et très peu discutée, selon Joël Paris-Julien, son directeur général. Aujourd'hui, alors que la cause gagne en visibilité, la Fondation concentre ses actions sur l'intégration du proche aidant dans l'équipe de soins, de le voir davantage comme un allié du réseau et un partenaire essentiel dans ce qu'il nomme la triade « patient, médecin, aidant ». En finançant des projets structurants et innovants qui viennent en aide aux personnes proches aidantes, la Fondation vise à améliorer leur accès aux ressources et aux soins. Il y a un énorme poids qui est mis sur les personnes proches aidantes. C'est un grand enjeu au Québec. Une personne sur trois est proche aidante. c'est-à-dire qu'elle donne au moins une heure par semaine de son temps pour aider une autre personne. La question n'est pas de se demander qui est proche aidant, mais plutôt quand sera-t-on proche aidant, constate le directeur général de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. La reconnaissance comme l'un des besoins principaux des personnes proches aidantes. En 2022, après avoir financé des projets de répit pendant 10 ans, la Fondation a voulu prendre le pouls des régions en y tenant des ateliers d'innovation sociale dans le but de valoriser l'apport des proches au réseau de la santé. Ses conclusions ont mis en lumière 8 besoins. Celui de la reconnaissance est arrivé en tête. À la fois l'auto-reconnaissance, la reconnaissance par les pairs, par les autres membres de la famille, par les employeurs, par la société, par les professionnels de la santé en tant qu'experts du patient. Durant ces ateliers, ça m'a fait un choc de voir que certaines personnes que les autres voyaient naturellement comme des aidants pour leur enfant ou leur partenaire n'avaient pas réalisé elles-mêmes leur rôle, se souvient Joël Paris-Julien. Une fois cette reconnaissance, ce diagnostic, comme il le dit, effectué, il permet au proche aidant d'avoir accès aux ressources dont il a besoin, par exemple des crédits d'impôt, de l'aide du CLSC ou une adaptation de domicile. Le fait de prendre soin de la santé des personnes proches aidantes leur permet de ne pas aller aussi loin dans l'épuisement, souligne le directeur général de la Fondation. Et certaines procédures administratives, par exemple, méritent d'être facilitées. La Fondation, à travers l'expertise des médecins spécialistes, cherche également à avoir un impact structurant sur le réseau de la santé, notamment en mettant en lumière les besoins des personnes proches aidantes auprès des décideurs. Quand nous évoquons, en commission parlementaire, l'inclusion des personnes proches aidantes dans l'équipe de soins, nous avons une crédibilité politique. On nous écoute. Les bienfaits d'une loi. Joël Paris-Julien reconnaît que l'existence d'une définition officielle par le gouvernement, la présence d'une loi et d'un plan d'action reconduit tous les 5 ans, est très encourageant pour la prise en compte des proches aidants, de leur statut et de leur situation. C'est le seul endroit au monde où il y a une loi sur la proche aidance. Mais on doit faire plus. On peut faire plus. Autre ressource. Si vous avez d'autres questions concernant votre rôle de personne proche aidante, vous pouvez également contacter Proche Aidance Québec, qui est un regroupement de 124 organismes communautaires œuvrant en proche aidance à travers la province. Il se spécialise notamment dans la défense des droits des proches aidants. Contacts et informations. Adresse courriel info@proche-aidance.québec. Téléphone 514-524-1959. Site Internet proche-aidance.québec. C'était la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Un texte de la rédaction paru dans le numéro 166 au printemps 2025 du magazine Paraquad.
Un sursis pour des autruches condamnées à l'abattage. Un texte de Judith Lachapelle, paru le 30 septembre 2025 dans La Presse. Mercredi le 24 septembre 2025, la Cour suprême du Canada a accueilli une injonction pour suspendre l'abattage d'environ 300 autruches dans une ferme de la Colombie-Britannique. Un nouveau rebondissement dans une affaire qui a des échos jusque dans le mouvement MAGA aux États-Unis. Quelle décision la Cour suprême a-t-elle rendue le 24 septembre? Les propriétaires de la ferme d'autruche Universal Ostrich Farms, situés à Edgewood, en Colombie-Britannique, se sont adressés à la Cour suprême dans une ultime tentative pour sauver leurs troupeaux de l'abattage. La Cour suprême a ordonné une suspension temporaire de l'ordre d'abattage le temps que ses juges décident s'ils entendront l'appel. Pourquoi le troupeau fait-il l'objet d'un ordre d'abattage? En décembre 2024, une inspection menée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ACIA, a détecté que deux des autruches étaient atteintes de grippe aviaire H5N1 et que 69 oiseaux en étaient morts. Un mois auparavant, un premier cas de transmission de grippe aviaire à l'humain avait été découvert en Colombie-Britannique chez une adolescente. L'ACIA a ordonné l'abattage du troupeau pour contenir l'épidémie qui sévit depuis plusieurs mois dans la province. Les propriétaires, eux, s'y opposent vigoureusement. Comment les propriétaires résistent-ils à l'ordre d'abattage? Leur opposition à l'abattage a fait le tour des réseaux sociaux où ils ont trouvé plusieurs appuis dans la mouvance libertarienne et chez les défenseurs des animaux. En mai, le secrétaire américain à la santé, Robert F. Kennedy, fils, a même écrit au président de l'ACIA pour lui demander de ne pas abattre le troupeau. D'autres vedettes du mouvement MAGA ont appuyé les propriétaires dans leur opposition aux autorités sanitaires canadiennes. Justement, le docteur Mehmet Oz et un commentateur conservateur ont proposé de sauver les autruches canadiennes et de les amener dans des ranchs de l'Oklahoma, de la Floride ou du Texas. Est-ce une réelle possibilité? Non. D'abord parce que le troupeau est gardé par des agents de l'ACIA et que des policiers de la Gendarmerie royale du Canada, GRC, empêchent toute personne non autorisée, y compris les propriétaires de la ferme, de s'approcher. Ensuite, en supposant que l'opération permette de mobiliser suffisamment de camions pour transporter les centaines d'autruches, ceux-ci seraient vraisemblablement arrêtés à la frontière. Les États-Unis en ont déjà plein les bras avec cet épis outil qui a plombé leur industrie avicole. La hausse importante du prix des œufs ces dernières années est en partie attribuable à l'épis outil de grippe aviaire. Les animaux sont-ils encore malades? Pourquoi ne pas abattre seulement ceux qui sont porteurs du virus? Ça fait longtemps que ces animaux ne sont plus malades, dit le médecin vétérinaire Jean-Pierre Vaillancourt, professeur à l'Université de Montréal, qui suit le dossier de très près. Le problème, c'est que toutes les autruches du troupeau doivent être considérées comme porteuses du virus, et même, et surtout, les animaux en pleine forme qui peuvent être des porteurs sains. Et puis, les autruches ne sont pas isolées dans un bâtiment. Elles vivent dehors, au grand air, où elles peuvent être en contact avec des oiseaux sauvages infectés. L'ACIA ne peut pas garantir à la communauté internationale que les autruches ne sont plus exposées au virus, dit le docteur Vaillancourt. Donc, dans ces conditions, l'abattage reste la solution privilégiée. S'il s'agissait d'une race d'autruches très rare, il y a des choses que l'ACIA aurait pu faire, dit le docteur Vaillancourt. Mais ce n'est pas le cas ici. Le Canada, en tant que membre de l'Organisation mondiale de la santé animale, s'est engagé à éradiquer le virus de la grippe aviaire lorsqu'il est détecté chez des animaux domestiques et d'élevage. En gros, dès qu'un test est positif, c'est tout le troupeau qui doit être abattu. Et tant que la circulation du virus n'est pas contrôlée, les marchés d'exportation sont bloqués. Quel est le danger pour la santé humaine? Le risque est faible, mais en laissant le virus circuler chez les animaux, ça peut faire en sorte qu'éventuellement, le virus pourrait muter, dit le docteur Vaillancourt. Quand on retarde l'abattage de troupeaux, c'est exactement la recette pour que les maladies se propagent dans un pays, renchérit le professeur retraité Sylvain Kessy de l'Université de Montréal. Qu'en pensent les défenseurs des animaux? L'antenne britannico-colombienne de la SPCA s'en remet à l'autorité de l'ACIA, tout en reconnaissant que le recours à l'abattage peut être approprié dans certains cas où une maladie animale représente un danger pour la santé publique. C'est aussi l'avis de l'antenne montréalaise. Pour justifier ce type d'opération, il est impératif que la menace à la santé publique soit réelle, sérieuse, bien documentée, qu'il n'y ait aucune alternative viable à la mise à mort des animaux et qu'il y ait véritablement urgence d'agir, dit l'avocate Sophie Gaillard de la SPCA de Montréal. Comment a été accueillie la décision de la Cour suprême? Avec scepticisme par les experts, qui doutent fort que la Cour ne décide d'entendre la cause. Une minorité des dossiers soumis sont entendus par le plus haut tribunal du pays, ou qu'elle puisse infirmer la décision de la CIA. Sophie Gaillard de la SPCA se réjouit que la Cour ait jugé nécessaire de se pencher sur le sort de ces autruches. L'intervention de la Cour suprême du Canada pour ordonner un sursis dans ce cas indique qu'il y a certainement des arguments sérieux à faire valoir pour annuler l'opération de dépeuplement envisagée par la CIA. Nombre de foyers d'infection de grippe aviaire au Canada, source ACIA, en date du 24 septembre 2025. Alberta, 5. Colombie-Britannique, 1. Québec, 1. Île-du-Prince-Édouard, 1. Saskatchewan, 1. C'était un sursis pour des autruches condamnées à l'abattage. Un texte de Judith Lachapelle, paru le 30 septembre 2025 dans La Presse.